Jean-Bernard Leroy à l'appareil, je reprends donc vos exposés, espérons cette fois-ci que vous avez bien été récupérés pour être. N'oubliez pas de me dire s'ils sont bien récupérés. Cette fois-ci, je vais vous parler du jansénisme. Excusez-moi. Ça y est, je me suis trompé de papier. Cette fois-ci, je vais vous parler du jansénisme qui a longuement marqué le catholicisme. Le jansénisme, cette hérésie subsiste encore sous d'autres formes concernant, elle concerne le rapport entre la grâce de Dieu et le libre arbitre de l'homme, sérieusement endommagé par la chute originelle. Le jansénisme a été la source de discussions passionnées sur le plan philosophique, théologique, avec l'emploi de nombreuses expressions de spécialistes qui rendent leur compréhension difficile aux lecteurs ordinaires que je suis. Cet exposé a donc été rédigé par quelqu'un de mal habile, ce dont je vous prie de m'excuser. Jansénius est un Hollandais qui vécut de 1585 à 1638. C'était un passionné de Saint-Augustin et de sa doctrine. Sa doctrine qui touchait la grâce, le libre arbitre et l'état de l'homme avant et après la chute. C'était un esprit laborieux. Il avait pour souci de rejeter les jésuites qui, à son avis, renouveler les erreurs des pélagiens lesquels affirmaient que l'homme était pleinement libre et qu'il pouvait choisir le bien et agir sans la grâce de Dieu. Il accusait les jésuites d'anéantir la grâce au profit de la liberté, ce qui est évidemment faux. La position pélagienne a été condamnée par saint Augustin qui disait que l'homme n'était pas assez fort pour se porter tout seul au bien, d'une manière constante, mais qui ne niait pas pour autant le libre arbitre qui, par son consentement, laisse un chemin le plus large possible à la grâce divine. Jansénius rédige « Nous sommes faibles, mais nous ne sommes pas incapables de faire le bien quand même ». Jansénius rédigea sa doctrine dans l'Augustinus, qui parut en 1640 après sa mort. La position que l'Église a fait valoir sur ce sujet peut être résumée ainsi, selon mon interprétation peut-être médiocre, mais la plus soigneusement possible, à mon avis. D'une manière constante, l'homme a besoin de la grâce de Dieu pour se porter vers le bien. Les jésuites affirment la nécessité de la grâce pour accomplir fidèlement ses commandements. C'est ce que l'on appelle la grâce prévenante, qui aide le libre arbitre à suivre cette voie. Les jansénistes parlaient de grâce suffisante qui oblige l'homme. Saint-Cyran parlait d'une grâce congrue. Tout cela semble bien confus. Les amateurs de la langue grecque parleraient de tétratrichotomie, l'art de couper les cheveux en quatre. Disons que nous ne pouvons rien faire ni entreprendre quelque chose de bien sans la grâce de Dieu, mais nous pouvons la refuser, c'est le péché. Il faut consentir à entrer pleinement dans un amour obéissant. Peut-on risquer le terme de soumission amoureuse? Comme les calvinistes, les jansénistes assuraient que notre nature corrompue par le péché ne pouvait rien faire de bien, ni même l'envisager sans la grâce de Dieu. Ils y voyaient une renaissance de l'esprit chrétien primitif. Port-Royal a été présenté comme l'idéal de la moralité et de la sévérité chrétienne. Port-Royal imposait des jeûnes constants et interdisait jeux et spectacles à ses paroissiens. Que dirait-il de la télévision ? Pourtant, il serait injuste de dire que les non-jansénistes, comme par exemple saint Vincent de Paul, ont une morale relâchée. Les jansénistes attaquaient principalement les casuistes, soutenus par les jésuites. Pascal les prenait particulièrement en cible. Les casuistes sont des gens qui disent que tous les problèmes doivent être réglés cas par cas et que telle action peut être péché pour certains, mais ne pas être péché parce que excusable pour d'autres. Ça, c'est tout le casuistisme. Pascal les prenait particulièrement en cible. Pourtant, ils étaient plutôt des infirmiers et faisaient davantage de l'hygiène, de la médecine que de la théologie dans des cas particuliers difficiles. Cela ne les empêcha pas d'avoir été particulièrement parfois imprudents. Mais il est souvent difficile de traverser des régions marécageuses, en particulier dans le domaine de la chasteté. Nous l'avons vu dernièrement avec les derniers propos du pape François concernant les divorcés remariés. Le prêtre n'est pas celui qui aime débattre des questions gênantes, à revoir certains problèmes. Dans le confessionnal, le prêtre est celui qui transmet le pardon du Christ. Des docteurs de la Sorbonne habitués à la morale outrée des jansénistes prétendaient qu'au confessionnal des jésuites, tous les péchés, toute la vie étaient examinés et expliqués, et que les prêtres se mettaient aux genoux du pénitent pour lui dire qu'il n'était pas coupable. C'est évidemment outré et même carrément faux. Dans l'oraison préconisée par tous les maîtres spirituels, l'âme s'élève vers Dieu, seule en face de lui, comme si Dieu n'avait qu'elle à inspirer. Cette intimité avec Dieu qu'on ressentit tant de mystères a quelque chose d'incroyablement mystérieux et d'incroyable. Certains ont dit que l'Assemblée s'occupait de chacun de nous comme s'il était le seul au monde, et nous lui parlons ainsi. L'infini est un mystère, mais il est bien doux de parler à Dieu comme à un père. Marie comme une mère. Normalement, une âme fervente nous dit « Se doit de tout accepter de Dieu et de le remercier de ses vies. À chacun son chemin vers la sanctification. » À Port-Royal est révisé, était remarquable sur bien des points, mais très rigide, avec pour unique but de parvenir à ce qu'elles estimaient être la perfection. Saint-Cyran voulait un Dieu régnant jusqu'au plus humble de cette époque. Il présentait l'hostie comme terrible et voulait que les âmes restassent dans la vie continuelle de la vie. Il finit par éloigner ses fidèles de la Sainte Communion en leur faisant craindre un sacré d'or. Il avait oublié que l'âme sera obligée de dire son salut dans la volonté de Dieu. L'âme ne trouvera jamais son salut que dans elle-même. Elle ne trouvera son salut que dans la volonté de Dieu. La condamnation du jansénisme fut pour plusieurs un drame terrible. Devait-il quitter la vérité ou sombrer dans le schisme? Dans un autre domaine, il y a des cas semblables aujourd'hui. Pascal disait « Tout doit être absorbé par la grâce. Vous devez tendre la main à l'amour absolu jusqu'à ce que Dieu ait allumé l'Holocauste qui réduit tout le reste en cendres. Cet absolutisme semble bien difficile à atteindre pour le cadre attelé à la tâche ou à la mère de famille absorbée dans les travaux ménagers. Saint François de Sales est plus accessible. L'abbé Huguenin écrit « Il faut s'abandonner à Dieu quand on a fait ce qu'on a pu. Il faut alors ne plus voir que la bonté de Dieu qui vous attire. » Du coup, dans le jansénisme, les religieuses tremblaient d'effroi à l'approche de l'Eucharistie, ne serait-ce que dans la peur de ne pas avoir fait la pénitence assez consciencieusement. Certaines allaient jusqu'à se priver de la communion pendant plus d'un an, ne voulant même pas faire leur part. Nous sommes loin du Seigneur, 12 et 1 de Décor. Les jésuites mettaient l'accent sur la bienveillance du Seigneur, alors que dans un traité sur la fréquente communion, le jansénisme Arnaud présente les dispositions requises de manière exagérée. Il arrive même, dans certains cas, à mettre en doute l'efficacité de l'absolution. Certains disaient, comme les apôtres à propos du mariage, dans ces conditions, mieux vaut ne pas communier. Il y avait une bonne dose d'orgueil dans cette attitude. Le père du fils prodigue n'hésita pas à prendre son fils dans ses bras. Il y avait également de temps en temps une complicité entre jansénistes et gallicans lorsque l'un d'eux affirmait que le pape n'avait qu'une juridiction d'honneur, chaque évêque étant monarque en son diocèse. Le dernier stade de l'autorité de l'Église était l'assemblée des fidèles, c'est la République ecclésiastique. Il pensait ainsi protéger l'épiscopat français, voire le roi de France des jésuites. Finalement, le jansénisme regarde la nature humaine comme incapable de tout bien. Dieu doit s'affirmer dans le vide absolu où la déchéance due à la faute originelle a laissé l'homme. La grâce s'établira sur ses ruines sans que l'homme ne puisse y coopérer. L'Église, au contraire, affirme la gloire de Dieu et de s'établir sur une nature libre. Il ne faut pas négliger ce que Dieu a mis de bon dans l'homme. L'intelligence pour le chercher et la liberté pour le choisir. La chute originelle a certes fait des ravages, mais il y a encore la lumière de la raison et surtout la liberté que Dieu a donnée à l'homme qui donne un prix exceptionnel à l'amour que Dieu lui porte. Des prédicateurs comme Bossuet négligeaient un petit peu trop la tendresse. Le Christ a voulu prendre la condition humaine. Le jansénisme prend vite le caractère de secte. Il ne voulait pas Il se voulait pur entre les purs. Seul un petit nombre d'âmes pourrait faire partie de l'Église et être sauvé. Il craignait d'être à l'étroit au paradis. En quelque sorte, Port-Royal rétrécissait les bras du Christ. On qualifie de jansénistes les crucifix où les bras du Christ se sont près de la tête, quand on a voulu les sculpter sur un seul morceau d'ivoire. Dans le but d'amoindrir la créature, les jansénistes insistaient sur l'impuissance de la raison à susciter la foi. Pourtant, la raison a la force d'atteindre plusieurs vérités. Einstein était admiratif devant les lois de la nature, disant « Le plus surprenant est que cela est compréhensible. C'est abaisser la gloire de Dieu de refuser de reconnaître cela. » Les jansénistes se disaient des infidèles « Toutes leurs œuvres sont mauvaises, aussi longtemps qu'ils sont en dehors de la foi. Ce n'est ni la doctrine de l'Église, ni le sentiment catholique. Les actes des infidèles peuvent être des actes bons, présentés à Dieu comme une prière pour obtenir de se hisser à la lumière de la foi. Disons que nous ne pouvons rien faire ni entreprendre quelque chose de bien sans la grâce de Dieu, mais nous pouvons la refuser. Il faut y consentir et entrer pleinement dans un amour obéissant, j'allais dire une soumission amoureuse. Certes, nous sommes de petits enfants parfois indociles, mais sachons demander pardon afin de nous retrouver dans les bras de notre Sauveur et de sa Mère. À l'entrée du carême, ce ne peut être qu'une sage résolution. Bien, je demanderai aux responsables de me dire s'ils ont bien reçu ce message et si je dois continuer un par mois ou au moins tous les 15 jours, je vais essayer, comme je l'ai promis. Je vous souhaite un bon mois de février. Bien.
Oui, c'est bien.
C'était bien ?
Il me paraît bien, mais c'est un peu rapide par moment. Non, mais ça, c'est le début, quoi. Que je suis un peu fatiguée, je la peine quelquefois à suivre. Mais j'ai bien compris le principal, quoi. C'est incroyable d'en arriver à ce point-là de rigorisme.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?
Et alors, il y a une tendance janséniste dans le... chez certaines personnes. Maintenant, on réagit tellement, tellement contre que... Un jour, une camarade de Marie-Gabrielle lui a dit « Mais pourquoi n'as-tu pas communié ? Ça se demande pas. » Alors, elle a répondu « Parce que... je ne suis pas professeur, mais pendant la messe, il y a une phrase où on dit je ne suis pas dit, mais si vous dites seulement une parole, vous même serez dit.
Non, arrête.
Vous entendez ce que j'ai dit?
Oui, monsieur. Excusez-moi, mais ils sont en train de me battre avec moi.
C'est en même temps naïf.
Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas.
Ça ne va pas ?
Oh mon Dieu.
Bonjour monsieur, je vous confirme qu'on a renvoyé un fichier audio sur FTP Radio Silence et monsieur Leroy souhaite savoir si vous l'avez bien reçu.
Si oui, je continue.
Si oui, il continuerait parce que.
Je connais. Tu m'avais dit que tu prenais maintenant un peu de temps pour passer.
Bon, je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt.
Mais ça, c'est